on est de retour dans l'Afterwork et nous a rejoint Olivier. Salut Olivier.
Salut Cyrielle, bonjour à toutes et à tous.
Alors on avait commencé en 2017 les grands voyages, on a continué avec Marc Frison-Roche et puis aujourd'hui on va enfin clore cette trilogie des grands voyages.
Oui voilà, les grands voyages suite et fin, hein, après ce premier épisode au mois de décembre déjà, hein, sur Irvine et Mallory, leur ascension de l'Everest, puis aussi bien sûr Frison-Roche que les chamoniards connaissent très bien. Hein. Bah, finissons aujourd'hui avec ces grands explorateurs, ces conquérants de l'impossible.
Alors ça a commencé très tôt, même dès le XVIe siècle.
Oui, voilà, ça a commencé pour les explorateurs européens très tôt, XVIe siècle, avec un petit peu une surprise, hein, au final, au début d'une grande découverte, il y a toujours un petit peu de chance, un petit peu de surprise, avec bien sûr notre Christophe Colomb, Cristobal, qui en 1492 part à la recherche d'une nouvelle route vers l'Asie, et pour ce faire, il part d'Espagne vers l'ouest, il décide de naviguer vers l'ouest. Je rappelle à cet effet qu'il décide de naviguer vers l'ouest pour une bonne et simple raison, c'est que la route terrestre est fermé depuis peu par les Ottomans qui bloquent totalement le passage par voie terrestre. Et donc, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est soit on contourne l'Afrique, et ça met un temps fou, soit on cherche une nouvelle route, ce qui est quand même plutôt très intéressant. Alors, il ne pense pas découvrir de nouveaux continents, et surtout, il va rester longtemps persuadé qu'il a abordé, quelques mois plus tard, l'Est de l'Asie, alors que non, au final, ce n'est pas du tout l'Est de l'Asie qu'il a abordé. Hein. Clairement, c'est plutôt l'Amérique.
Donc vraiment, il ne le savait pas du tout encore à l'époque.
Ah du tout. Et pour qu'on se situe bien l'histoire à cette époque-là, c'est lorsqu'il a préparé son voyage, il s'est heurté à beaucoup de mentalités rétrogrades. À l'époque, je rappelle que la Terre est considérée comme encore plate. On ne connaît encore que 3 continents, même si on suppose qu'il y en a d'autres. Etc, etc. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'à cela se heurte le problème du financement. À l'époque, faire financer son voyage par un roi, c'est très difficile. Christophe Colomb, il n'est pas du tout espagnol, il est génois. Hein, donc, il vient de la République de Gênes en Italie. Il va parcourir l'Italie, puis la France pour essayer de trouver un financement. Personne ne va lui accorder de financement. Et enfin, c'est seulement à la deuxième tentative qu'Isabelle de Castille va lui accorder le financement qu'elle lui avait refusé une première fois.
Alors moi, je voudrais revenir sur l'histoire de la Terre plate. Ça veut dire que lui, il n'y croyait pas que la Terre était plate. On est d'accord, vu qu'il essaye de passer par l'autre côté pour y accéder.
On est d'accord. Alors, non seulement lui, il n'y croit pas, mais ils sont beaucoup à ne pas y croire. En fait, la petite subtilité, c'est que à cette époque-là, on sait depuis bien des siècles, enfin, on suppose que la Terre n'est pas plate, donc qu'elle est ronde, parce qu'il y a eu des calculs, je passe sur Ptolémée et compagnie, mais il y a eu des calculs, mais simplement il n'avait pas valeur de référence, parce qu'il y a toujours cette mentalité un peu rétrograde qui consiste à dire « ça vient de l'Antiquité, c'était pas des chrétiens, donc ils ne peuvent pas avoir découvert la vérité ». Tandis que nous, chrétiens, qui sommes les fiers héros du Christ, nous connaissons la vérité. Donc il y avait un petit peu une espèce de je dirais pas de machisme, mais quelque chose...
Ça, ouais.
Voilà, c'est ça, il y a quelque chose qui est du même registre.
Et ensuite, à partir de là, ce sera vraiment la course découverte.
Voilà, le vieux continent européen, comme on dit, a très rapidement saisi l'importance et puis l'opportunité, surtout, hein, de telles découvertes. Et pour bien illustrer cette course, hein, non pas aux armements, mais cette course aux découvertes, ben on va faire un petit bond dans le temps. Et je vais vous parler notamment de deux navigateurs qui, au XVIIIe siècle, vont s'affronter dans une sorte de technicité, si j'ose dire. En fait, il s'agit de Antoine Bougainville, qui est français, et par rapport au britannique James Cook. Alors les deux vont sillonner le Pacifique, hein, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et ils sont à la recherche des dernières îles encore inconnues.
Et si on regarde les cartes des voyages de Cook, on voit pourquoi il a été surnommé le laboureur du Pacifique, quand même.
Voilà,
quand
effectivement, même. Oui, c'est le surnom officiel qui lui est donné, pour la bonne et simple raison que sur les 3 voyages qu'il va faire, il va faire des va-et-vient incessants, pour littéralement quadriller l'océan, c'est-à-dire il découpe l'océan en petits carrés ou en petits rectangles, comme vous le souhaitez, et puis ensuite il va les explorer un à un.
Donc il a fait ça absolument toute sa vie.
Oui, alors ouais. Toute sa vie, enfin, ça a nuancé dans le sens où ça va lui occuper une bonne dizaine d'années du reste de sa vie, parce qu'il va mourir prématurément. En effet, les voyages ne le laisseront pas indemne, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'à l'occasion de son troisième et dernier voyage, après avoir découvert l'île d'Hawaï, il va périr mangé par les autochtones hawaïens, ça ne s'invente pas, suite à un affrontement qui était dû, pour la petite histoire, à la mauvaise conduite de ses matelots.
Je ne m'y attendais pas.
Non, bah c'était pour l'anecdote ne manque pas de croustillant, si j'ose dire, dans le sens où, au premier voyage, ses matelots, tout content, découvre Hawaï, etc., c'est merveilleux. Deuxième voyage, ça se passe aussi bien. Et puis, troisième voyage, bah, il se considère comme étant en territoire conquis, viol et compagnie. Et puis, bah, forcément, les Hawaïens ne vont pas laisser passer ça. Un échauffouré, et puis il va être capturé, tué et mangé.
Et donc, c'est avec lui que ça se termine, ces courses ?
Oui, cette course aux découvertes, cette course aux possessions ultramarines va vraiment se terminer définitivement avec lui, puisqu'on passe dans un temps à peu près similaire à des luttes en Europe où cette fois-ci il ne s'agit plus de découvrir, mais de se voler ce que l'on appellera désormais ben, des colonies, hein, tout simplement. Et si on veut prendre un exemple hein, pour illustrer notre propos, c'est le cas de l'Angleterre et de la France. Après le traité de Paris en 1763, ben, comme le dit l'expression à l'époque, on est gros gens comme devant, c'est-à-dire que ben, en France, on avait les Indes, les territoires ultramarins, etc. etc. Ben, au final, il ne nous reste plus que les Antilles, quelques comptoirs en Inde par-ci par-là, histoire de dire qu'on peut s'arrêter quelque part pour faire des haltes, et pour ainsi dire, plus rien des possessions aux Amériques.
Alors on peut revenir un petit peu en arrière, et on s'arrête sur deux cas particuliers, les Antilles bien sûr, et puis aussi le Canada.
Oui, alors, ben, puisque tu l'as cité dans cet ordre-là, parlons d'abord des Antilles. C'est un cas effectivement tout à fait intéressant que ces Antilles, hein, et notamment, ben, si on prend une île en particulier, c'est la Martinique. La Martinique, je le rappelle, arrive dans le giron de la France en 1635, bien avant la Lorraine, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, puisque la Lorraine, je rappelle que c'est en 1766, donc plus d'un siècle avant, la Martinique arrive dans le giron de la France, et c'est une île qui est chèrement défendue. Alors, par attachement, sans doute, hein, mais il ne faudra pas exagérer non plus l'importance émotionnelle, mais c'est surtout aussi son importance stratégique au XVIIIe siècle. Hein. Si on se rappelle un petit peu de la géographie de la Martinique, on se rappelle qu'elle est située en plein dans l'Amérique centrale, et que cette île ne peut qu'intéresser Français comme Anglais. Pourquoi ? Parce que les Français ont des possessions dans l'Amérique du Nord, et les Anglais essayent de mettre un pied définitif en Amérique du Nord, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La Martinique sera prise par les Anglais, puis finalement restituée après le traité de Paris en 1763. Alors cette Martinique, elle nous intéresse, mais il y en a d'autres, hein, des îles qui nous intéressent. Il y a Marie-Galante, bien sûr, et puis toutes ces îles qui constituent la Guadeloupe de manière générale.
Il y a beaucoup de Français qui sont partis s'y installer au 19e et puis au 20e.
Oui, et c'est un petit peu ça que je voulais qu'on évoque lorsqu'on parle des explorateurs, c'est que les explorateurs, c'est pas seulement des noms connus, c'est aussi des gens, des inconnus qui vont faire l'histoire. Si on prend la Martinique, bah, ça va se faire bien sûr cette colonisation sous forme de l'économie qu'on appelle l'économie de plantation avec des esclaves jusqu'en 1848, puis après ça changera un petit peu. Alors si on veut s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres. Hein. Chiffres officiels, en 1848, date de la création de la Seconde République et donc date de l'affranchissement de tous les esclaves, la population de Martinique, elle comptait à l'époque 121 000 habitants environ, hein, et sur ces 121 000 habitants, vous avez ce qu'on appelle 9 000 et quelques blancs, ce qu'on appelle les béquets là-bas, 38 000 affranchis et 72 000 esclaves. Donc on a un système vraiment, je ne vais pas dire de caste, mais un petit peu quand même, c'est-à-dire les blancs au-dessus, ce qu'on appelle les béquets, les planteurs. En dessous, vous avez les affranchis qui vont gérer la plantation, et encore en dessous, vous avez les esclaves qui seront la main-d'œuvre. Et on trouve ainsi la trace de métropolitains hein, qui viennent de Bordeaux, de Vendée, de Normandie, etc., qui vont s'installer, qui vont perdurer dans ces îles. Et bien moi, ça, j'ai envie de dire, ça me semble passionnant et ça me touche tout particulièrement parce que c'est l'une des dernières fois de l'histoire française que des personnes vont migrer volontairement, qu'elles sont désireuses d'avoir un avenir prospère. Puis ça me rappelle un petit peu ces vagues de migrants européens vers les États-Unis au début du XXe siècle. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, ces gens s'installent, vont partir définitivement, hein, ils n'ont pas pour idée de vouloir revenir quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard en métropole, non, ils s'installent définitivement et la plupart d'entre eux travaillent pour le ministère des colonies. D'ailleurs, je rappelle à ce propos qu'à l'époque, il existait, et peut-être que les plus anciens parmi nous s'en souviennent, il existait ce qu'on appelait l'école coloniale, qui est un peu le pendant de ce qu'on appellerait aujourd'hui les instituts régionaux d'administration ou bien les écoles nationales d'administration.
On marque une petite pause musicale et puis on passera ensuite au Canada.